existe des murs d'importance, abritant des palais imposants, où s'engouffrent des vents immobiles, où ne pénètre jamais le froid. Il existe des gens sans conscience, qui signent des décrets malfaisants, et radotent des lois imbéciles, qui balaient la raison et le droit. Il existe des lieux d'insolence, à l'abri des gueux et des perdants, où s'ébattent des princes futiles, brûlant des fortunes dans la joie. Il existe dans la douce France de la mort au milieu des vivants, du désert au mi-temps de la ville, des hivers qui durent 12 mois. J'ai vu des regards sans existence, des fantômes qui trompent le temps, des humains aux gestes malhabiles qui mendient devant les cinémas. Tout un peuple garde le silence, mais le vacarme est assourdissant. La détresse sans cesse défile et se blottit sous le moindre toit.
Radio Libertà. Non, je rigole, Christiane. Dans quelques instants, le Ferry Club Radio Libertà, c'est la voix de la Fédération anarchiste, hein, qui n'a ni Dieu, ni maître, ni publicité. Pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Il faut essayer, ça fait du bien. Allez, c'est parti.
Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Le Ferry Club, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, rencontre avec Yvan Perret.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant, tu vas partir. Tous les deux, nous allons vieillir, chacun pour soi. Comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi. Je conserve le piano. Continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais, un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je m'en fiche.
Depuis quelque temps, je lance ces appels à vous, auditeurs, auditrices, pour venir nous rejoindre autour du micro de Radio Libertaire, le micro du Ferry Club, l'émission que vous écoutez en ce moment même. Et pendant bien longtemps, ces appels sont restés un peu vains, je dois bien dire, mais depuis quelque temps, j'ai le grand plaisir de recevoir des échos à ces appels que je lance. Il y a quelque temps de cela, j'avais le plaisir de recevoir autour de ce micro Myriam, qui était venue nous parler de son Léo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul dans le studio, puisque je suis accompagné d'Yvan Perret. Bonjour Yvan.
Bonjour, bonjour à tous.
De la même manière que Myriam, tu m'as contacté il y a quelque temps par internet en me disant « Voilà, bonjour d'avoue, j'ai entendu que tu cherchais des témoignages au sujet de Léo. Écoute, si tu as quelques minutes pour me recevoir, je serais content de rejoindre le studio de Radio Libertaire que je connais un petit peu. »
C'est vrai.
On va le dire dans quelques instants. On va donc parler ensemble de Léo Ferré aujourd'hui, toi et moi, Yvan. Mais avant d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, Léo, peut-être peux-tu te présenter quelque peu en tant qu'individu, en tant que mélomane avisé, amateur de chansons françaises,
oui,
à nos auditeurs et auditrices.
C'est difficile de se présenter soi-même. Je suis un piéton de Paris, comme disait Léon-Paul Fargue. J'y pensais aujourd'hui en venant ici. J'ai pas mal marché dans la capitale. Je suis né à Paris, d'ailleurs. Je suis né à l'Hôtel Dieu, au cœur de la capitale. Et donc, je suis un vrai Parisien, même si maintenant, je me promène un petit peu ailleurs. Alors, parler de moi en quelques mots, mélomane avisé, je ne sais pas, parce que je suis pas un musicien. J'aurais bien aimé, d'ailleurs. Ça fait partie de mes grands regrets. Mais j'aime depuis toujours la musique et la chanson. C'est vrai que depuis tout jeune, très jeune, j'écoute la chanson, j'achète des disques, j'aime les chanteurs, je vais voir des spectacles de chanteurs, et ça fait partie. C'est une passion que j'ai réussi plus ou moins à concilier avec une vie professionnelle, puisque j'ai été enseignant. En collège et lycée, enseignant de lettres modernes, j'ai fait des études de lettres, et puis j'ai fait aussi de la radio, j'ai réussi à cumuler les deux, à Radio France, dans les années, à la fin des années 80 et années 90, et même au début des années 2000 sur France Musique, avec des émissions essentiellement consacrées à la chanson française. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai surtout appris les chansons des années 30, 20, 30, 40. J'ai beaucoup découvert quand j'étais dans une radio qui s'appelait Radio Bleu dans les années 80.
Ah oui.
On passait beaucoup de chansons françaises. On recevait des chanteurs, d'ailleurs. Et là, j'ai consacré aussi une série d'émissions aux auteurs de chansons. Ça me fascinait. Les auteurs qui ont écrit pour les autres. Il y a des auteurs, alors, si je dis les noms ici, de Pierre Delanoë, de Jean-Dréjacques. Jean-Dréjacques qui a écrit Sous le ciel de Paris, qui a été chanté récemment. Ouais. Pour les Jeux Olympiques, et d'autres alors, qui sont malheureux, maintenant tous décédés, ou même des chanteurs, auteurs, comme Jean-Claude Darnal, comme Rissé Barrier, Caussimon, alors j'avais reçu le fils, Raphaël Caussimon, le fils Jean-Roger, pour rendre hommage à Jean-Roger Caussimon. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'émissions comme ça, j'en ai fait aussi sur France Musique, et depuis quelques temps... alors je donne des conférences avec un ami chanteur qui s'appelle Jean Dubois, que certains auditeurs de Radio Libertaire connaissent peut-être. Et donc, je donne des conférences. J'ai fait une conférence sur Léo Ferré, une sur Cosimon, une sur Brassens, en lien avec les livres que j'écris. Et puis, des thèmes, la chanson et le vin, la chanson et le champagne, puisqu'il y a eu un festival en Champagne. Et puis, la chanson et la censure. Enfin, voilà. Et ça m'amuse beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et puis j'ai écrit deux ouvrages, effectivement, deux ou trois ouvrages sur la chanson française, mon cher.
Voilà, tu peux peut-être nous en dire deux mots. Alors un premier qui était consacré aux chansons en général.
Ouais, hein, la petite histoire des chansons, ça m'a toujours intéressé. Ouais. Justement, suite aux rencontres que j'avais faites avec des auteurs de chansons qui me racontaient comment est née telle chanson. Parfois deux mots écrits sur un bout de table comme ça, et puis sans le savoir, cette chanson-là, auquel ils ne croyaient pas, a fait le tour du monde, a été un succès énorme. Et donc j'avais reçu des auteurs et j'ai essayé de retranscrire ça par écrit en racontant la petite histoire de ces grandes chansons. Ça va de 1888 avec le fiacre. Alors bien sûr, j'ai pas rencontré celui qui a écrit le fiacre, un fiacre à lait trottinant, qui est une vieille chanson.
Oui,
de la
ça aurait été compliqué là.
Ça aurait été compliqué. Donc ouais. Pour faire le livre, bien sûr, j'ai été chercher dans les archives, documentation, des anciennes chansons. Jusqu'aux années 2000, effectivement, avec des chansons très célèbres. Mais ça m'a permis aussi, alors bien sûr, il y a C'est si bon, il y a La mère de Trenet, il y a Paris Canaille, Monsieur William, voilà. La mémoire et la mer. Mais il y a aussi des chanteurs qu'on a un peu oubliés, enfin, sauf sans doute sur Radio Libertaire, comme Jacques de Broncard, parce que je l'avais rencontré, j'avais vu sur scène, et j'évoque la chanson « Je suis heureux », qui a été un petit succès, qui est passé en radio, je m'en souviens. J'évoque Raoul de Gosarsveld, j'évoque Maurice Fanon, j'évoque aussi des gens comme ça dans ce livre-là, qu'on ne trouve plus, ou alors d'occasion sur Internet, parce que là, ça n'existe plus. J'essaierai peut-être plus tard de le faire rééditer en le grossissant un petit peu, parce que c'est un livre qui avait plu et que j'aimais bien.
Je vais donner son titre exact, si tu veux bien, et tu me corrigeras si je fais une erreur. 120 chansons que l'on fredonne, 120 ans, aussi, un petit jeu de mots, enfin, un petit dessin, je sais pas comment on peut dire ça, une façon de présenter.
Oui, c'est l'éditeur qui avait fait ça, oui.
Voilà. Et petites histoires et anecdotes à propos de ces 120 chansons que l'on fredonne.
Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est un livre que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire et qui a bien fonctionné pour un petit auteur pas connu, un livre sur la chanson, un éditeur qui n'était pas un grand éditeur. Et puis,
c'était chez qui ? Quel éditeur ?
C'était Didier Carpentier.
Ah oui, effectivement. Oui.
Les éditions Carpentier, oui, qui a fait pas mal de livres sur la chanson. D'accord. Alors, je sais qu'il est toujours, vivant, Didier Carpentier. Je le vois apparaître parfois sur les réseaux sociaux, mais il s'occupe plus d'édition. Alors, et le livre n'est pas réédité. La maison d'édition n'existe pas. Alors, on le trouve parfois dans les.
Oui, dans les trucs d'occasion.
Voilà, c'est ça. Mais je sais que sur Internet, il apparaît. Et alors un autre livre, alors plus récent, et celui-ci, on le trouve toujours. J'ai même vu récemment encore chez Gibert. Gibert, ils font un stand de Le Paris 2. Ça s'appelle Le Paris de Georges Brassens. Qui est sorti en 2021, puisque 2021, c'était les 100 ans de la naissance de Georges Brassens. Il est né en octobre 21. Et les 40 ans de sa mort, puisque malheureusement, il est mort jeune en 81. Il n'avait que 60 ans, hein. Il venait de fêter ses 60 ans. Et j'ai eu l'idée de ce livre. Alors, ça, c'est intéressant parce que, en fait, c'est en voyant la collection de livres qui s'appelle Le Paris 2. C'est une petite collection. Enfin, une petite. Maintenant, c'est une grande collection, mais c'est des livres petits format poche.
D'accord.
C'est Le Paris 2, mais c'est surtout Paris des écrivains, des artistes. Il y a le Paris de Victor Hugo, le Paris de Baudelaire, le Paris de Picasso, le Paris de Georges Sand, le Paris 2. Et je me disais, tiens, ça serait bien qu'il fasse le pari d'un chanteur.
Ça n'existait pas encore.
Ça n'existait pas. Alors, ça n'existait pas. Mais bon, je disais, ben, tant pis. Hein. Et puis un beau jour, je vois qu'ils ont fait le pari de Serge Gainsbourg.
Ah ouais.
Et là, je me suis. Alors c'est vrai, Gainsbourg, il était né à Hôtel Dieu aussi. Et il est mort à Paris aussi. On sait, il est mort chez lui, rue de Verneuil. Donc lui aussi, c'était un Parisien qui est rarement sorti de. Donc ça s'y prêtait. Et j'aurais proposé, et c'est là que j'ai dit, tiens, si on faisait le Paris de Georges Brassens. Alors, des livres sur Brassens, il y en a pléthore, des essais, des biographies, il y en a trop, quoi.
Ouais, et puis le lien Paris-Brassens ne se fait pas automatiquement.
Eh ben là, en fin de compte, si, parce que, alors oui, il est né à 7, ça c'est entendu, c'est une affaire entendue, il a passé son enfance à 7, et il est mort d'ailleurs pas loin de Montpellier, à Saint-Gély-du-Fesc, il est pas mort à Paris. Mais il aimait Paris. Alors, justement, je m'interrogeais quand j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, pourquoi je ne ferais... Parce que je voulais faire quelque chose sur Brassens. Hein. D'un côté, je me suis dit, mais il y en a eu plein des livres sur Brassens. On m'attend pas pour faire un livre sur Brassens. Et puis, c'était avant l'anniversaire. Et c'était la période du Covid qui commençait... et je me suis dit... J'ai entendu, il s'avère que j'ai entendu... J'ai réentendu la radioscopie. Je ne sais pas si tu connais cette émission dans les années 60-70, ou même dans les années 80, de Jacques Chancel, qui était une grande émission sur France Inter. Enfin, une grande émission, c'était une émission célèbre. Et je réécoute le radioscopie de Georges Brassens, qui à un moment donné s'énerve, il s'énervait rarement, hein, mais Chancel lui dit, oui, vous aimez bien la province, hein, vous avez une maison en Bretagne, il dit, et Brassens lui dit, pas du tout, moi je suis un vrai Parisien, j'adore Paris, et si on pouvait se faire naturaliser Parisien, je le ferais.
Ah ouais.
Alors cette phrase-là, je l'ai écrite tout de suite sur un truc, je l'ai mise sur la quatrième de couverture. Il dit lui-même que c'est un vrai Parisien et qu'il adore Paris. Et à partir de là, j'ai fait le bouquin. Et effectivement, il a connu Paris pendant la guerre, parce qu'il est arrivé à Paris en 39. Enfin, je veux bien qu'on parle de Brassens, mais là, je peux en parler pendant une heure. Hein.
Non, mais écoute, on parlera ici, Brassens, ça va, ça ne nous fait pas peur.
Oui, il a sa place à Radio Liberté.
Oh, oui, franchement.
Et il est arrivé à Paris en 39, à 18 ans, à l'âge de 18 ans. Et bon, on connaît un peu l'histoire, hein, pendant la guerre. Et puis, il s'est caché dans la passe Florimont chez Jeanne. Donc, je raconte tout. Parce qu'il était prisonnier au STO. Là, et puis, il s'est pas évadé, mais il avait une permission de 3 jours. Il n'est pas revenu. Donc, il s'est planqué un passe Florimont. Donc, il a connu Paris pendant la guerre, chez Jeanne. Il faut savoir que c'était la misère. Hein. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Parfois, c'était une pomme pour trois. Enfin, bon, voilà. Et après, c'est là qu'il a commencé, qu'il a écrit ses chansons. Et puis il a commencé les cabarets. Et là, il allait dans les cabarets à pied, y compris au Lapin Agile. Le Lapin Agile, c'est à Montmartre, hein, c'est
oui,
tout en haut.
Il faut monter.
Et il faut descendre après dans le 14e oui, pour rentrer. Donc il connaît bien pas. Il a fréquenté le monde libertaire dans le 10e. Je le raconte aussi. Il y a tout un chapitre là-dessus sur le monde libertaire à l'époque où il a commencé par corriger. Il faisait correcteur, quoi. Il corrigeait les fautes, les machins. Puis après, il a écrit quelques articles prenant des
pseudonymes.
Et puis donc je raconte tout ça et puis sa vie à Paris puisque après il a toujours habité Paris même si effectivement il s'est acheté une maison en Bretagne mais de temps en temps il allait à Sète voir les copains mais voilà c'est un vrai il faut lire le livre pour comprendre l'attachement de Brassens pour Paris et donc c'est un livre qui fonctionne bien je le sais aussi par l'éditrice par le donc qui plaît bien parce que c'est on y apprend des choses alors je parle aussi de certaines chansons, comment sont nées ces chansons. Le bistrot, ça se passe à Paris. Il n'a pas fait de chanson avec le mot Paris dedans.
Voilà,
dans le titre,
oui,
par rapport à Ferré.
Mais c'est là où le lien se fait moins facilement. Oui, c'est vrai que dans le répertoire de certains chanteurs, on fait un lien direct avec Paris. Ouais. Et chez Léo notamment. Mais c'est vrai que chez Brassens, on cherche un peu dans son répertoire un lien avec Paris.
Faut
mais il est plus
chansons.
Individuel. En fait, c'est plus dans son individualité en fait, qui est lié à Paris.
Bien sûr.
Bien plus
bien
que
sûr.
Son travail de compositeur ou d'auteur.
Et c'est vrai que c'est un programmateur de radio un peu feignant, ce qui n'est pas le cas ici, à Radio Libertaire, et qui va dire, tiens, on va faire une émission sur les chansons sur Paris, on va sur ordinateur, mais Paris, dans les titres de chansons, on trouvera tout sauf Brassens. Mais si on connaît un peu Brassens, Les Ricochets, qui est une magnifique chanson, ça raconte son arrivée à Paris, une petite histoire d'amour au bord de la Seine. Le Bistrot, ça se passe à Paris, c'est un bistrot parisien. Enfin, il y a des chansons quand même qui se passent à Paris. Et puis, donc, voilà pourquoi j'ai fait ce livre-là, qui est le dernier livre de 2021, qui est sorti donc pour l'anniversaire. Et c'est pendant le Covid que j'ai marché. Alors j'étais sur ses traces. Je voulais faire le trajet qu'il faisait des cabarets à chez lui.
Depuis de la fin,
depuis Bobino à chez lui, parce qu'après, quand il était connu, il chantait à Bobino. Hein. Et donc tout ça, j'ai fait ces traces-là.
Oui, il habitait dans le 14e, c'est
oui,
ça
oui, bien sûr. Bon. Il disait hors du 14e, point de salut.
Entre Bobino et le 14e, ça va, puisque
Bobino,
c'est quasiment
le 14. Un journaliste, un jour, lui dit, pourquoi vous êtes toujours à Bobino et pas à l'Olympia? Il dit, c'est plus près de chez moi, je peux y aller à pied.
Tout simplement, ouais, d'accord.
Alors, pour être précis, son dernier demeure, c'était rue Santos-Dumont, c'est dans le 15e. Enfin, c'est limite 15e, 14e,
oui,
c'est pas loin. Mais s'il y a des vrais Parisiens qui nous écoutent, il n'était pas toujours dans le 14e, le dernier appartement, c'est le 15e.
Ah, donc il était en tant qu'expatrié là-bas, hein, on
oui,
peut le dire.
Oui, pratiquement,
quand même,
on peut le dire, mais c'était une belle demeure.
Et à ces deux livres va s'ajouter très prochainement un troisième que tu vas consacrer à quelqu'un qu'on aime bien dans le coin, il faut le dire, Jean Ferrat.
Oui, c'est vrai. Là aussi, des livres sur Ferrat. Alors c'est un peu plus compliqué parce que même de son vivant, il voulait pas qu'on fasse de biographie. Il se méfiait, il voulait pas de livres sur lui. Puis bon, il y en a eu quelques-uns maintenant. Il est décédé en 2010, ça va faire 15 ans. Et en fait, c'est en réécoutant, comme je vais souvent à Entraigues, ce qui était son village d'adoption où il a vécu longtemps en Ardèche, oui, près d'Aubenas. C'est en réécoutant des chansons, il s'avère que moi j'ai été biberonné un peu à Ferrat, parce que ma mère écoutait beaucoup Ferrat, je crois qu'on a, de ce côté-là, on a des,
oui,
des choses en commun. Et comme beaucoup de gens de notre génération, enfin je suppose, c'était quand même, c'est un chanteur qui était engagé, mais qui était très très populaire, qui a vendu beaucoup de disques, hein, là j'ai regardé en faisant le livre, des millions de disques, hein. Le Aragon, il s'est vendu à plus d'un million et demi, le premier disque consacré à Aragon, c'est quand même, maintenant,
c'est colossal.
Concevable,
ouais, clairement.
Quand ils vendent un disque, quand ils en vendent 3000, ils sont contents.
Ouais,
c'était des millions de disques. Donc, il était très, très populaire. Et ces chansons-là, en les réécoutant maintenant, en dehors des chansons d'amour, qui sont, je me dis, mais il y a des références. Comme disent les jeunes, maintenant, on n'a plus la ref. On n'a pas la ref. C'est-à-dire que quand on écoute, bon, Nuit et brouillard, bon, c'est d'accord, c'est les camps. Si on connaît un peu l'histoire de France, ça va. La montagne, on comprend ce qu'il veut dire, même si peut-être ça mérite une explication sur le phénomène de l'exode rural dans les années 50-60. Mais il y a des chansons comme Le Bilan, qui est quand même liée à une phrase qu'avait dit Georges Marchais à l'époque. Des chansons comme Un air de liberté, qui répond à un article du Figaro que j'ai retrouvé et dont je mets un extrait dans pour bien comprendre.
Bien. Ouais, bien sûr.
Et puis la réaction de Jean d'Ormesson qui est intéressante aussi. Et Au printemps de quoi rêvais-tu, qui est une chanson qui évoque les événements de mai 68. Et là aussi, j'ai fait des recherches sur avec beaucoup d'interviews. J'ai lu à peu près, il en a donné beaucoup des interviews, Jean Ferrat. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de replacer ces chansons dans leur contexte historique et social, et sans faire trop explication de texte et tout, en essayant... Ça rejoint un peu le premier livre, Histoire de chansons, c'est-à-dire, il y a l'histoire de la chanson, comment elle a été écrite, pourquoi il l'écrit, et après, donner quelques références pour bien comprendre, et puis les répercussions qu'ont eu cette chanson, le succès qu'elle a eu, la censure éventuellement que...
Oui,
cette chanson a été censurée.
Ça allait bon train à l'époque.
Ou déconseillée, entre guillemets, Nuit et brouillard était déconseillée, c'est-à-dire que... Il fallait pas la diffuser parce que on était. Alors ça aussi c'est intéressant. Maintenant qu'on parle beaucoup de la Shoah, etc. À l'époque on n'en parlait pas du tout.
Ouais.
On était en 1963. Quand on y pense, c'était à peine 20 ans, 17, 18 ans après la guerre. Ouais. Tout le monde avait connu. Il fallait pas en parler. Et c'était l'époque de l'accord de Gaulle et chancelier allemand de l'époque, Eisenhower, je crois.
Adenauer.
Oui. Qu'il fallait. Voilà, on serrait la main, on tournait la page, on était et. Lui, il n'était pas d'accord pour ça. Il a fait cette chanson, Nuit et brouillard, pour rappeler comment ça s'est passé. Et pour ça, il ne fallait pas le passer à la radio. Et figurez-vous que la première radio qu'il a diffusée, c'est Europe 1, parce que c'était une radio de jeunes, c'était une radio périphérique. Et un soir, Lucien Maurice, le directeur d'Europe 1, a dit « Tiens, on va la passer. » Alors, à l'époque, c'est pareil. À l'époque, il faut comprendre que les radios avaient beaucoup d'importance. Il y avait trois radios. Il y avait des gens qui n'avaient pas la télé ou qui n'avaient pas la télé. Le soir, on écoutait la radio. Donc, une chanson qui passe à la radio à 9h du soir, à l'époque, ça avait plus d'importance que maintenant.
Et puis, la musique était moins consommée à l'époque. Il y avait moins de support qu'on a aujourd'hui.
Effectivement, il y a moins de support. Absolument. Il a passé cette chanson et là le standard a explosé. Tout le monde a demandé à ce qu'il la rediffuse et, là tout d'un coup il a été surpris lui-même. Il le dit dans toutes les interviews de les répercussions qu'a eu cette chanson. Alors voilà, je trouvais ça intéressant d'évoquer tout ça. Donc il y a une vingtaine de chansons, dont les poèmes d'Aragon, bien évidemment. Certains poèmes d'Aragon que j'évoque, et puis la rencontre avec Ferrat. Donc puis une petite biographie à la fin. Voilà, ça sort au mois de mars.
Très bien.
Là, en ce moment, c'est en train de voir. Bon, il sort des photos, des illustrations, des extraits de chansons.
Oui, les droits, les administratifs.
Ça se met en route, mais a priori, ça sort au mois de mars. Ça sera les 15 ans de sa disparition. Et puis, j'espère que ça se passera bien et que je pourrai peut-être venir vous en reparler.
Ah, bah, avec plaisir, parce qu'on aime bien Jean Ferrat par ici, hein, tu le sais. Donc,
oui, je sais. J'ai entendu l'émission consacrée à Jean Ferrat avec quelqu'un qui connaissait aussi son affaire.
Ouais, un petit peu comme ça.
Te souvient-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour venu de la chapelle jadis déjà combien pourtant je me rappelle « mes mots de bonjour et d'accueil. Mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil. Et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Oh, tes forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelques tendances aussi franches à nier, mais si vite quittés au premier pas du doute. Et puis nous rentrions plus que lent par la route un peu des écoliers, chez moi, chez nous plutôt, qui déjeunaient de rien, fumaillaient vite et tôt, et dépêchaient longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Le Ferry Club, je suis avec Yvan Perret aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir Yvan, et on va en venir à Léo. Et la discussion au sujet de Léo que nous allons avoir commence toujours par une question qui est un peu traditionnelle dans cette émission, savoir comment est-ce que tu définirais Léo à quelqu'un qui ne le connaît pas et qui te demande qui il est.
C'est difficile. C'est difficile parce que c'est justement parce qu'on peut pas le définir en deux mots qu'on l'aime.
N'hésite pas à en prendre trois ou quatre.
Trois ou quatre. J'ai envie de dire ce qu'il disait. Un jour, il parlait des musiciens classiques parce qu'il aimait beaucoup la musique classique, les musiciens. Il parlait de Beethoven. Et le journaliste lui dit Eric Satie. Eric Satie, c'est un type à part. Moi, j'ai envie de dire que Léo Ferré, c'est un type à part. C'est difficile, il est aussi à part, il est dans sa galaxie, c'est difficile de le catégoriser comme ça, chanteur rive gauche, chanteur anard, bien sûr. C'est très difficile. Léo Ferré, c'est l'amour, et l'amour et la révolution, hein. C'est dans Le Chien, je crois, qu'il dit « je provoque à l'amour et à l'insurrection ».
Et à l'insurrection.
Ou la révolte, parce que la révolte, c'est plus individuel, c'est plus, parce que c'est la solitude aussi, Léo Ferré. Hein. Donc voilà, c'est l'amour, la révolte, la solitude, la musique, et c'est un personnage aussi qui m'a fasciné, moi, quand j'étais adolescent. Alors ça vient aussi de l'adolescence, hein, bien sûr, on parlait de Ferra tout à l'heure. Ferra, c'était l'enfance, enfin c'était l'enfance, je l'ai découvert étant enfant. Ferré, c'était un petit peu plus tard.
Oui, on n'écoutait pas Ferré chez toi, on écoutait Ferra mais pas Ferré.
Oui, il y avait un disque ou deux de Ferré qui traînait, mais c'était ma mère écoutait Ferra. Puis, et Ferra, je crois qu'on l'entendait plus aussi à la radio, parce que c'était des chansons qui passaient beaucoup en radio, hein, Ma Môme, La Montagne.
Alors, plus facile en radio, tu penses? Plus facile de diffuser Ferra que Ferré?
Ah, je pense, pour les programmateurs. Oui, je pense. Alors, on en reparlera, mais avec Bartley, il a fait quand même 2-3 succès populaires comme Joli Môme, tout ça qui passait beaucoup en radio, ou même après cet extra en 69, qui était assez populaire, mais je crois qu'on écoutait plus Ferra. Mais Ferré, c'est lié aussi à l'adolescence, parce qu'on a l'impression que c'est une révolte adolescente qui n'en finit pas, Ferré. Ouais, c'est ça, il y a ce côté comme ça, je gueule, je suis pas content contre l'autorité, les flics, les machins, le couple. Bon, ça me fascinait, moi, je trouvais ça. Alors bien sûr, après, quand on vieillit, quand on grandit, bon, il y a des choses. Parce qu'il y a le côté idole, d'ailleurs, il a fait une chanson, hein, Regarde-moi bien, je suis une idole, et c'est vrai que je l'idolâtrais un peu.
Ah oui?
Je l'idolâtrais, oui, en ce sens où tout ce qu'il disait, c'était, voilà, c'était bien. Alors bien sûr, après, on se dit, bon, on voit que c'est un personnage, c'est un humain, comme toi et moi, avec ses failles, avec ses petites erreurs, avec ses doutes, avec ses, voilà, avec ses maladresses.
Ses contradictions et ses faiblesses.
Oui, puis sûr. Voilà, puis des choses, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, hein, mais bon.
Mais à une époque, ouais, t'étais dans,
oui,
cette,
oui,
dans cette approche.
Oui, oui, oui. Puis il était fascinant. Et ouais, puis sur scène. Puis il avait toujours le besoin de se remettre en question. C'est ça qui plaît beaucoup aussi. Parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas suivi. Il a quand même complètement détourné les canons de la chanson française. Mmh. Et puis il a fait. Enfin, moi, à chaque fois, je n'ai jamais été déçu. Il y a des gens que j'ai vus plusieurs fois sur scène. Bon, après, je me disais, c'était bien, mais c'était la même chose que j'ai vu il y a 2 ans et tout. Tandis que lui, non. Non. Une fois, on le voit avec son pianiste, Paul Castagnier. Une fois, avec tout d'un coup, en 70, cet homme qui avait les cheveux blancs, qui avait l'âge de mon père, il débarque avec le groupe Zoo, avec les guitares électriques. La lucidité se tire dans mon froc. Moi, j'avais 15 ans, j'ai tombé de ma chaise. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça c'était extraordinaire. Et puis après, il se fait plaisir. C'est des musiciens classiques, c'est l'orchestre symphonique qui dirige tout en chantant. Enfin, on n'a jamais vu ça, quoi.
Il casse les codes de ce qu'on dit.
Complètement.
Ouais, monsieur.
Et puis, et puis ces façons, tu l'as vu sur scène.
Oui, 4-5 fois. Ouais.
C'était quand même extraordinaire. Et même tout seul avec son piano, ouais. Quand il arrivait comme ça, ou parfois j'ai même vu sans micro. Je sais plus dans quelle chanson il se lève. Je crois que c'est le Printemps des Poètes. Il se lève du piano. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, si c'était d'accord avec l'ingénieur du son et tout, mais il continue à chanter. Il a plus de micro, mais on l'entend au fond de la salle. Il avait déjà 60 ans passé, mais ouais. Il continue à gueuler. C'était quand même quelqu'un de fascinant qu'il fallait voir sur scène et qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore. Si je me suis un petit peu, bien sûr,
éloigné un peu.
Comme je disais tout à l'heure, oui. Puis j'ai des périodes, on en parlera
bien
peut-être.
Sûr, ouais, bien sûr.
Tous les derniers disques, je les écoute moins d'intérêt, moins de plaisir que les d'autres chansons qui ont compté beaucoup pour moi, quoi.
On va parler effectivement d'accord. Un peu en détail de son œuvre, mais comme tu viens de le dire un petit peu entre les lignes, l'enfance chez toi c'est Ferrat et l'adolescence c'est un peu Ferré ou peut-être beaucoup Ferré, je sais pas. Alors comment est-ce que tu as découvert Léo ? Comment est-ce que on passe de l'enfance à l'adolescence finalement chez Yvan Perret ?
Alors très bonne question. Et puis là, j'ai une réponse.
Ah
oui, parce que c'était en 1970. Tous ceux qui connaissent Léo Ferré savent que ça a été une année phare pour Ferré, avec le disque Amour Anarchie, avec son histoire privée qui venait de se terminer avec Madeleine, avec sa femme. Enfin, toutes les répercussions que ça a eu sur la chanson. Et moi, en 70, j'ai 13 ans. Ça permet de savoir l'âge que j'ai, parce que je suis né en 57. Et j'allais en colonie de vacances tous les étés, au colonie de vacances au mois de juillet. Et en juillet 70, donc je commence, oui, je m'intéresse. Alors j'étais fils unique, donc j'écoutais souvent à la maison. J'avais pas le droit, je crois, mais je faisais quand même. C'est meilleur quand on n'a pas le droit. J'écoutais des disques. Déjà, j'aimais bien mettre un disque sur à l'époque, c'était le pick-up. Et
t'avais pas le droit parce que les disques étaient fragiles.
Oui, je sais plus. C'était vraiment, disons qu'il fallait éviter que je touche aux trucs électriques, aux machins, et puis il fallait plutôt que je travaille, que je copie mes leçons. Puis de temps en temps, je mettais un disque et puis je le rangeais pour pas qu'on voit que je l'ai mis. Mais voilà, c'était pas méchant. Hein, c'était ma mère qui ne touche pas. Bon, voilà. Mais j'écoutais et puis j'aime bien écouter les disques, mettre le bras sur le micro-sillon. Et j'écoutais et je regardais les pochettes et je m'intéressais au nom de celui qui a écrit la chanson, j'aimais beaucoup ça. Donc j'écoutais les disques mais je connaissais pas bien Ferré. Et donc à 13 ans, je vais en colonie de vacances et il y avait deux moniteurs dont un qui s'appelait Alain Maline. Ouais, vous verrez pourquoi je cite son nom et je connais encore son nom parce que à l'époque là aussi je le dis pour s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent les activités en colonie de vacances c'était pas les jeux vidéo, c'était pas le portable, c'était pas la télé, c'était même la télé il n'y en avait pas. On chantait, c'était les moniteurs qui avaient 20 ans, qui avaient 7-8 ans de plus que moi, ils arrivaient avec des guitares, leur carnet de chant, et puis on chantait des chansons, et on les apprenait, et puis...
Ensemble en plus.
Ensemble,
ouais.
Avec le moniteur qui prenait la guitare, et c'est comme ça que je connais tout le répertoire d'Hugo Frey, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, bon c'est autre chose.
Ça
se chante bien, c'était très agréable, mais aussi les standards de l'époque, de Joe Dassin, tous ces gens-là, et Alain Maline, il arrive avec des disques, il y avait le disque Amour Anarchie, qui venait de sortir sans doute, de Léo Ferré.
Aillons.
Et là, avec cette pochette, là, déjà, là aussi, je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait pas les choses comme les autres. À l'époque, faire une pochette avec un mur, avec une espèce de truc tagué, Amour, Anarchie, comme ça, c'est quand même assez étonnant. Et je l'écoutais, ce disque. Alors, pour être honnête, on le passait pas le soir tous ensemble avec quelqu'un qui prenait la guitare pour chanter le chien, parce que c'était quand même un peu compliqué.
Oui.
C'est pas quelque chose. Mais je sais plus, c'était il y a longtemps, hein, mais pouvais écouter les disques. Là, par contre, j'avais le droit. Et donc, je disais, je peux aller écouter. Alors, j'écoutais. Et j'ai écouté ça, La mémoire à la mer.
Oui, bien sûr.
Dans le désordre de ton cul, poissé. Rappelle-toi ce chien de merde. Alors, si on me demandait à l'époque, explique-nous la chanson, j'aurais été bien. Même encore maintenant, c'est compliqué. Mais
J'étais pris par la beauté des mots, cette fulgurance, ces images qu'apparaissait cette mélodie. Et puis le chien, là qui parle comme ça, c'est pas de la chanson ça. Et puis Paris je ne t'aime plus, et puis le crachat, et puis enfin toutes les chansons de ce disque-là.
Il y a de quoi en prendre plein la tronche quand t'as 13 ans.
Et là, voilà, là j'ai été vraiment scié. Et par la suite, quand je rentrais à Paris, avec mon premier argent de poche, j'ai été acheter les disques de Lou Ferry à la Samaritaine. À l'époque, Samaritaine, c'était un magasin où il y avait des disques, rue de Rivoli. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ferré étant ado ou pré-ado, et qu'après, systématiquement, j'ai acheté les disques qui ont suivi, ou même ceux qui ont précédé.
Bah oui.
Parce qu'après, je me suis découvert que le gars, il avait un petit...
un petit catalogue déjà derrière lui.
Alors, c'est plus tard que j'ai acheté les disques Odéon. Mais pour finir l'histoire avec Alain Maline, c'est qu'Alain Maline, c'est un type qui est un peu connu, qui a fait du cinéma par la suite. Il était assistant de François Truffaut. Et il a fait 2-3 films, Jean Galmot aventurier, avec Malavoie, qui se passe en Guyane, ni avec toi, ni sans toi, qui a un film avec Philippe Lothar. Enfin, il a fait des films, il est cinéaste, et on trouve son nom. Et j'ai réussi à le recontacter, parce que, alors, donc j'ai découvert ça en 70 avec lui, et en 2016, donc ça fait quand même 46 ans après, je fais une conférence, je donne une conférence sur Léo Ferré au Forum Léo Ferré à Ivry.
D'accord.
Pour les 100 ans d'ailleurs, parce que 2016,
ouais.
C'était les 100 ans de la naissance de Lou Ferry. D'ailleurs, j'ai appelé la conférence Pour tout bagage, on a 100 ans.
Pas mal.
Voilà.
Ouais.
Et je donne cette conférence. Et là, je me dis, si je contactais ce type, Alain Maline, si je recherchais où est-ce qu'il est.
On est d'accord, c'est juste quelqu'un qui s'occupait de toi dans cette colonie.
Oui, oui, c'est ça. Voilà, oui, bien sûr. Ah, ouais. Ah oui, c'était. Je me rappelais du nom. Alors j'avais une photo de groupe où on est ensemble avec tous les autres de l'équipe.
Oui, voilà, oui.
Une photo. Puis, si par la suite, alors parce que j'étais aussi moniteur, j'avais vu des gens qui le connaissaient. Puis j'avais vu, alors au cinéma, je voyais son nom sur le générique. Bon, donc c'est pour ça que le nom, je l'ai bien gardé. Et je me suis dit, tiens, si j'essaie de le contacter, on verra bien. Eh ben, j'ai réussi. Je l'ai retrouvé, il était là, toujours là d'ailleurs. Alors bien sûr, il doit maintenant avoir entre 70 et 80 ans. Et il est venu à la conférence. Il est venu à ma conférence consacrée à Léo Ferré. Alors je trouvais ça à la fois très beau et...
Bah oui, parce que c'est une boucle qui se boucle. Enfin,
voilà, j'étais enfant, il était venu avec ce disque-là, et puis... Et j'étais comme les autres, j'écoutais les chansons et tout, et puis savoir que 50 ans après, je parle de Ferré, et j'ai dit d'ailleurs, à la conférence, j'ai dit c'est un peu grâce à lui, hein, monsieur.
Ouais, voilà, c'est ça qui est marrant.
L'assistance, il est là, et c'est un peu grâce à lui, alors je voudrais le saluer, je crois que les gens vont applaudir, enfin voilà. Donc ça fait plaisir. Donc voilà comment j'ai rencontré Léo Ferré, pour répondre à ta question, je sais pas si j'ai bien répondu.
Ah oui, tu as répondu avec une forme de précision à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est chouette, parce qu'en même temps, il y a un vrai moment qui est figé, comme ça, il y a un vrai passeur aussi. Quelqu'un qui joue ce rôle-là, quoi.
Oui, oui.
Et puis qui va se retrouver quelques années plus tard au moment de boucler la boucle d'une certaine manière,
oui,
dans le public de cette conférence.
Ouais.
C'est pas banal, effectivement.
Ouais, conférence de Lou Ferré au Forum Lou Ferré.
Oui, qui plus est, ouais,
et,
bien sûr.
Où Yvan Dautin était venu chanter une chanson, et Francesca Solville aussi d'ailleurs.
Le soir de ta conférence.
Oui, oui. Alors j'ai donné deux fois, alors je sais plus si c'est le premier soir ou le deuxième soir. J'ai donné une deuxième fois, mais oui, absolument, oui. Alors, ben, François Solville et Yvan Dautin étaient des... Enfin, j'en parle à l'imparfait, mais ils sont toujours là. Mais je veux dire, ils venaient souvent au Forum.
Au Forum,
du temps du Forum Léo Ferré, donner des récitals.
Tout à fait.
Là-bas.
Tout à fait. Alors, on va parler un peu de la découverte de l'œuvre de Léo. Une fois qu'il y a ce travail de passeur,
oui,
tu rentres chez toi et donc tu vas accumuler au fur et à mesure qu'ils vont sortir les disques de Léo. Alors, accumuler, tu vas les acheter, quoi, au fur et à mesure.
Je sais plus comment c'est, peut-être pas tout de suite, parce qu'au départ, c'est compliqué, puis j'avais pas l'argent pour acheter les disques. Tout ça s'est fait sur plusieurs années.
Bien évidemment.
Mais il est évident qu'après, j'ai découvert Cosimon aussi grâce à lui, parce que je m'intéressais déjà aux auteurs. Et je voyais des chansons, c'était marqué en dessous, Pierre Segers, Cosimon, Francis Claude. J'ai dit, tiens, mais ça, c'est pas vraiment une chanson de Ferré. Et déjà, j'étais intéressé par aller chercher qui étaient ces types-là. Et oui, alors la période Odéon avec ce coffret, avec ces chansons, il y a des chansons qui sont extraordinaires, que j'ai beaucoup aimé et beaucoup écouté aussi. Et puis après, ouais, à chaque fois qu'il sortait un disque, parce que c'était quand même une production assez fournie à l'époque, hein. Amour Anarchie volume 2 est arrivé quand même assez vite par la suite. Après, il y a eu cette réédition qu'avait faite Bartley les chansons d'amour. En fait, c'est pour mettre avec le temps sur un 33 tours.
Ah,
parce que
oui,
le temps n'existait qu'en 45 tours.
Absolument,
à l'époque.
Ouais, ouais, tout à fait.
Parce que là, c'était un 45 tours qui a bien marché. Mais... Et donc, il a mis sur... Ça s'appelle les chansons d'amour. Quand on y pense bien, avec le temps, c'est pas tout à fait une chanson d'amour. C'est, aussi, c'est plutôt ouais,
une chanson de
fin.
D'amour triste, oui.
La fin d'un amour, oui. Avec le temps, on n'aime plus. Mais voilà. Mais si, et puis, il y avait les autres chansons, Ça te va, L'amour fou. Si, c'est un beau disque.
Ah bah oui.
Et La vie d'artiste. C'est là qu'il a réenregistré La vie d'artiste, avec uniquement le piano. Ou à la fin, là, avec cet accord. Et puis, donc ça, c'était, et là, j'avais découvert cette chanson, La vie d'artiste, que j'aime beaucoup aussi, de France, qu'il a écrite avec Francis Claude.
Monsieur.
Et qui était d'ailleurs, qu'il a écrite en pensant à sa, je sais pas si tu le sais, à sa première femme, qui s'appelait Odette, je crois. Et donc, voilà, qui, où ils sont séparés. Parce que c'est l'époque, de, vraiment, pour le coup, des vaches maigres. Hein, cette fameuse fin du mois qui, depuis, connaît toi et moi. C'est pour elle qu'il avait écrit cette chanson. Pour ça que ça a été enregistré à l'époque. Et la réenregistre en 71, 72, suite à... En pensant, donc, à Madeleine. Mmh. Et il l'a toujours chantée sur scène. Moi, j'ai vu souvent chanter sur scène, cette chanson-là. Enfin, je dévie un petit peu, là, pour dire que les disques, oui, j'ai continué à les acheter. Puis après, c'était Il n'y a plus rien.
Hein, ouais, bien sûr.
Avec préface, avec l'oppression, avec Ne chantez pas la mort de Cosimon. Donc là, j'étais complètement... Et je commençais, j'avais mis le poster dans ma chambre d'adolescent.
Ouais, il devient un peu une idole à ce moment-là. Quand
oui,
même.
C'est
ouais,
ça.
Peu, ouais.
J'allais le voir et je me souviens que j'allais voir les copains de mon âge qui écoutaient Ange, qui écoutaient Pink Floyd, qui écoutaient les Stones. Moi aussi, un petit peu dans les soirées. J'étais,
bah oui, bien sûr. Ouais,
mais j'étais vraiment plutôt axé. Mais alors, les copains, ils venaient chez moi, ils écoutaient Ferry. Je me rappelle que Ferra, les autres trucs que j'écoutais, tout ça, ça les intéressait pas trop. Mais Ferré, quand même, déjà, il y avait le côté, on sait que c'est un mec qui gueule, qui fait, qui a un art.
Et ça et plaisait, donc, ça.
Et on m'empruntait les disques. J'avais acheté le Bobino 69. Oui, on m'empruntait les disques, et puis, ouais, ouais.
Donc ça titillait assez pour qu'on emprunte les disques.
Même des gens qui, a priori, quand on a 14-15 ans, les 70, ce sont français, c'est un peu ringard. Hein.
Bien
les
sûr.
Stones, on écoute, à l'époque, c'était... alors que moi, j'étais vraiment chanson française, même si j'écoutais les Beatles et les...
Ça t'empêchait pas, effectivement, d'aller te renseigner quand même sur ce qui se faisait. Dis donc, je reviens à quelque chose dont tu nous parlais, là, il y a quelques instants. Tu dis, quand tu regardes les disques, tu commences à voir que l'auteur, c'est tel, c'est Pierre Seghers, c'est ceci, Cosimo, etc. Tu commences à t'intéresser à l'objet disque, tu commences déjà un peu à avoir cette curiosité particulière qui va te faire t'intéresser de manière très spécifique à certaines chansons quelques années plus tard. Ça naît un peu de là, cette curiosité que tu as pour les petits détails.
Sans doute, effectivement, parce que je voyais, je savais que Ferré était ce qu'on appelait un auteur-compositeur, qu'il écrivait ses chansons, comme Ferra, pas toutes, mais la plupart, que Brassens était un auteur-compositeur, que... et puis il y avait les interprètes, Montand, Gréco, qui étaient aussi des gens que j'écoutais un petit peu, qui étaient des interprètes, mais lui c'était un auteur, puis de temps en temps je voyais ces noms-là, je regardais absolument, et alors, à l'époque il n'y avait pas Internet, mais ça me titillait, je disais, parce que je crois que j'étais... Déjà, j'étais très attiré par les chansons de Cosimon, j'entendais M. William, Le temps du tango, Ne chantez pas la mort, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais quelle belle chanson, mais qui a écrit ça? Il le disait lui-même sur scène, une chanson de Cosimon. Et quand Cosimon a sorti son premier disque en 71, il a sorti un 33 tours, il avait déjà plus de 50 ans, qui s'appelait Jean-Roger Cosimon, chante Jean-Roger Cosimon. Et moi, ça me parlait tout de suite. J'avais 15 ans et je l'ai acheté. Et c'est là qu'il y a Les Cœurs Purs, il y a Le Funambule, qui sont de belles chansons, et puis les chansons qu'il a faites avec Ferré. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et l'anecdote, que Cosimon racontait souvent, c'est Pierre Barou, je ne sais pas si tu connais Pierre Barou, chanteur, mais aussi éditeur de disques,
surtout
la maison de disques Sarava,
bien sûr.
Dont la devise était « Il y a des années où on a envie de ne rien faire ». Et il a monté cette maison de disques. Alors je crois que c'est grâce à Un homme et une femme. Il avait fait la musique, la chanson Un homme et une femme de Lelouch, hein, Tchabada.
D'accord. Et c'est ça qui l'a.
Personne ne voulait de cette chanson-là. Les éditeurs, après, ils s'en sont mordus les doigts. Et lui, du coup, il a monté son petit truc. Il a dit, bon, on va le faire comme ça. On va monter notre petite maison de disques. Ça a été un carton. Et après, il s'est dit, je vais faire une maison de disques et je vais inviter les gens que j'ai envie d'inviter. Et donc, il y avait David McNeil, il y avait Morane, il y avait Higelin. Et puis Cosimon. Et Cosimon lui a dit, quand il a appelé Cosimon, disant, j'aimerais bien faire un disque avec vous, enregistrer vos chansons. Et Cosimon lui dit, mon pauvre ami, vous allez en vendre 12. Et que Barou lui dit, bah, tant pis, m'en fous. Moi, je suis content d'avoir un disque de vous. Dans la... Et non seulement il en a vendu plus que 12, ça a bien fonctionné, ouais. Mais en plus, il a continué à en faire. Il en a fait 5 ou 6, et il a chanté grâce à ça. Et Pierre Barou dit qu'il a illuminé les dernières années de David Cossillon. C'est qu'il a chanté sur ça, il est parti avec sa roulotte, sa caravane, avec sa femme et son chien. Il allait chanter partout avec un pianiste, les chansons. Et donc ça, c'était bien. Ça, c'était... Parce que Cossillon, j'ai été le voir sur scène aussi, et ça, j'adorais ouais. cet homme-là. Et pour revenir à ta question, oui, j'ai découvert comme ça. C'est-à-dire que je pense pas que le disque Jean-Roger Cossimon chante Jean-Roger Cossimon en 71, c'est que c'était très vendeur.
Ouais, ouais, bien
bon,
sûr.
Voilà.
Ouais,
voilà. Mais moi, ça me parlait.
Il y a chez toi, Yvan, la curiosité d'aller voir les petits sans détails doute. Sur les oui, disques oui. et de t'intéresser à qui c'est est derrière
vrai.
Tout ça. Ouais. Et voilà, ça commence à.
C'est
ça germe.
Ah
c'est
oui,
un
oui
peu,
et puis non, l'orchestrateur.
Ah aussi, ouais, voilà,
Jean-Michel
ouais,
Defay, oui, bien sûr, qui est toujours vivant.
Bien sûr.
Qui est toujours, qui est le seul, enfin, parmi les gens de cette génération-là, parce qu'il y a Paul Moria qui l'accompagne dans Joli Môme, il y a eu d'autres orchestrateurs, mais Jean-Michel Defay est toujours vivant et je crois même qu'il a collaborer plus ou moins avec cet extra et avec le temps que les harmonies, la musique, enfin il a vraiment, il n'est pas seulement orchestrateur, hein, il a participé à l'écriture de la musique. Enfin, il a, donc voilà, il a, c'est un nom important et
oh, bah oui.
donc c'est bien de citer aussi les orchestrateurs et le travail qu'il a fait sur le disque de Rimbaud et Verlaine.
Ah, c'était
quand même quelque chose d'extraordinaire.
Bien sûr, c'est fabuleux.
Et ça, c'est, je crois que c'est Bartley qui lui avait...
Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jetée au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la Margelle. Je l'oublierai si je puis. Au nom des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse. J'implorais d'elle un rendez-vous le soir sur une route obscure et l'hiver. Folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi je l'aimais trop, voilà pourquoi je lui dis, sors de cette vie. Nul ne peut me comprendre, un seul parmi ces ivrognes stupides songea-t-il dans ses nuits morbides à faire du vin à linceul. Cette crapule invulnérable, comme les machines de fer, jamais ni l'été ni l'hiver n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chaîne et d'ossements. Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre-mort, alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre. Et je dormirai comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargé de pierres et de boue, le wagon enragé peu bien. Écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu, je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la Sainte Table.
Et alors, au fur et à mesure que, finalement, va se compléter, tu vas découvrir les albums les uns après les autres, et au fur et à mesure que se complète ta connaissance de l'œuvre de Léo, est-ce qu'il y a des dimensions qui vont te plaire particulièrement? Alors, quand je dis dimensions, ça peut être, par exemple, des thématiques qu'il aborde. Un travail spécifique qu'il fait, par exemple, celui autour de l'œuvre des poètes. Ou alors la dimension musicale, son travail de chef d'orchestre, que tu vas découvrir, puisqu'en 1974, il se met un peu plus derrière le pupitre, avec la baguette. Est-ce qu'il y a des choses qui vont particulièrement interpeller celui que tu es, l'individu que tu es?
Alors maintenant, avec le temps, je crois que je suis de plus en plus sensible au travail qu'il a fait sur les poètes. Ce passeur de la parole des poètes. Et je peux dire, là encore une fois, si on évoque l'enfance, l'adolescence, j'ai découvert Baudelaire, Apollinaire grâce à Léo Ferré, c'est pas à l'école. J'ai découvert Arthur Rimbaud grâce à Léo Ferré, c'est pas à l'école. Donc, parce que vraiment, quand j'ai écouté les poètes de 7 ans, par exemple, ou les pensionnaires de Verlaine, ou les poètes de 7 ans de Rimbaud, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai relu le texte, j'ai trouvé ça très très beau, et la façon dont il le chante. Donc ça a été vraiment, et ça c'était un travail, c'était assez audacieux, déjà à l'époque, de consacrer un double album chez Barclay, qui était un gros vendeur de disques, mais qui voulait faire des disques qui se vendent. Hein. Et donc il s'est quand même pas trompé. Et Baudelaire, donc tout ce travail qu'il a fait sur les poètes, je trouve ça assez remarquable. Et de plus, alors je dis ça parce que bien évidemment, pour répondre à ta question, l'amour dans ces textes, par exemple, mériterait d'être mieux étudié. Les chansons qu'il écrivait dans les années 50, puis après 60, puis après 70, le rapport amoureux, le rapport avec la femme, la façon dont il évoque la femme, ça bien sûr, ça m'a pas mal interrogé et intéressé à une certaine époque, et ces chansons-là. La musique aussi, bien évidemment, même si ces longs poèmes symphoniques, quand il a commencé à faire des chansons qui duraient 8, 10, 12 minutes, j'ai pas été complètement tout de suite séduit par ces œuvres-là. Mais donc...
Tu les as découvert à l'époque? Quand tu avais...
Oui. Ah bah j'ai acheté les disques aussi.
Une vingtaine d'années, quoi.
Oui, c'est ça. Oui. Les choses très très belles. J'ai acheté les disques systématiquement.
Et quand il fait cette mutation un peu, justement, lorsqu'il passe sur des formats un peu hors format, sur des trucs, des chansons un peu plus longues, avec des textes un peu plus compliqués, peut-être. Est-ce que tu adhères toujours quand tu as cet âge-là, lorsqu'il les sort?
J'adhère à la démarche. Encore une fois, c'est le culot et le fait de casser une certaine image, de bouleverser encore une fois les codes, de dire, ben moi maintenant, je vais chanter autrement, je vais pas faire des chansons couplet-refrain.
Cette démarche te plaît?
Parce que là aussi, qui d'autre a fait ça? C'est ce que je disais tout à l'heure.
Et comme t'as une vingtaine...
Il est à part, quoi.
Et comme t'as une vingtaine d'années à ce moment-là, est-ce que, au-delà de la forme, est-ce que le fond te plaît, quoi? Est-ce que ce travail-là...
Oui, certaines choses me plaisent, oui, bien sûr. Mais maintenant, j'écouterais moins ça. Si je me mets un disque de Ferré, je dis, tiens, j'ai envie d'écouter Léo Ferré aujourd'hui.
D'instinct, c'est pas forcément la période dans laquelle
je vais tourner. L'imaginaire ou même le dernier. J'avais écouté récemment Les Vieux Copains, le disque Les Vieux Copains,
oui.
Qui est un mélange d'ailleurs de chansons anciennes et de parce que La Poisse et En Amour, enfin des chansons qui sont très anciennes qui est la reprise et certaines chansons. Je me dis bon bah là c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Enfin je sais pas si je peux dire ça sur Radio Liberté.
Ah bah si tu peux, parce que même Mathieu le reconnaît, qu'il y a certaines réorchestrations dans Les Vieux Copains. On se demande pourquoi il avait cette envie, il l'a fait, on n'allait pas l'en interdire.
Entre parenthèses, le travail que fait Mathieu Ferré, tout le travail qu'il a fait sur la réédition des disques et tout est magnifique. Hein. Ouais. C'est un très très beau disque, toute cette collection là, où, avec les belles pochettes et ça c'est...
Pochettes de l'époque.
Très, très bien. Oui, ça a fait un très beau travail et déjà ça c'est des disques qu'il faut se procurer. Donc voilà.
Très bien. Donc oui, cette dimension-là te plaît, cette dimension du travail sur les poètes, aujourd'hui, rétrospectivement, c'est vraiment quelque chose à...
Parce que je crois qu'on aura plus ça. Alors, Brassens l'a fait aussi un peu avec Paul Fort, avec Aragon, avec Ferrat l'a fait beaucoup avec Aragon.
Bien sûr.
Et avec Apollinaire, une jolie chanson, un joli poème, Si je mourais là-bas. Mais Ferré, il a consacré des disques entiers aux poètes. Et encore une fois, je crois que je ne suis pas le seul de ma génération à dire qu'on a découvert la poésie... grâce à Ferré, pas à l'école. Ça veut pas dire que les profs étaient nuls et tout, hein. J'ai été prof, je sais ce que c'est, mais c'est pas pareil de découvrir un poème comme ça, un peu en cachette, avec le gars qui chante, les poètes de 7 ans, quoi. Ou la charogne de Baudelaire, ou c'était quand même... Puis le choix des chansons aussi, puis les mélodies derrière, hein. C'est le vin de l'assassin. Ma femme est morte, je suis libre, j'ai pu donc boire tout mon sou, ses cris me déchiraient la fibre, lorsque je rentrais sans un sou. C'était, horrible soif qui me déchire, aurait besoin pour s'assouvir d'autant que de vin qu'on peut tenir sans tombeau, ce n'est pas peu dire. Hey. Et oui, parce que, du coup, c'est facile pour moi de les apprendre par cœur. Par contre, la chanson du mal-aimé, c'était quelque chose. Alors moi, je l'ai vu sur scène dire la chanson du mal-aimé.
On parlera de tes concerts dans quelques instants, après. Déjà, dénoncer ça, de nous dire ça, quand même, t'as vu ça, sympa.
Là aussi, c'était quand même... J'entendais... récemment, j'avais écouté une chanson sur France Musique, une émission, pardon, où ils vont chercher à l'INA des documents d'archives, des interviews. Et il y avait une interview de Jacques Douai. Je sais pas si c'est un nom qui dit quelque chose. Jacques Douai, qui était un interprète, qui était un des premiers chanteurs à guitare. On dit toujours que c'est Brassens, mais avant, Jacques Douai faisait les cabarets avec la guitare, il chantait des chansons, c'était un interprète. Et Jacques Douai, il a participé à la première mouture de la chanson du Mal-aimé. Il était le récitant, je crois. Il était, si on retrouve le disque d'origine, il raconte, Jacques Douai, dans ce document que j'ai écouté, qu'il allait boulevard Pershing, là où habitait Ferré, ouais, pour répéter pendant 2 mois. On était quand même en 50, dans les années 50. Et il voyait ce Léo Ferré qui allait faire un disque sur la chanson du Mal-aimé. Et Jacques Douai a cette expression, il dit, il fallait quand même avoir un culot monstre pour faire ça, comme ça, pour faire oser faire un disque à l'époque. C'était l'époque d'André Clavaux, de Luis Mariano, de Lynn Renaud. Et l'autre, il va faire la chanson du Mal-aimé, qui est quand même un truc, quand même, c'est pas facile. Hein. Ouais. Et je me dis, c'est ça, un culot monstre. Il a eu le culot après de chanter avec Les Zou, un groupe pop, alors qu'il avait l'âge de, il avait pas l'âge de chanter avec eux. Après, il a fait la musique classique. Après, moi, je l'ai vu à la Fête de l'Humanité, après un discours de Marchais, arriver sur scène et chanter Les Anarchistes, tout de suite. Hein. Tout ça, je l'ai vu. Hein. Mes yeux vus. Alors, je sais plus en quelle année, des années 70, quand j'allais à la Fête de l'Huma, parce que c'était 10 francs, 8 francs, et je voyais Mouloudji, Gréco, Fanon, Robert Charlebois, tous, ils étaient tous là.
Oh, terrible.
Et Ferré, une fois, j'ai vu, ouais. Discours de Marchais, alors Ferré était un peu la vedette, il finit, je crois que tout le monde chante l'international, et il dit, maintenant, on va laisser la parole au grand poète qui vient nous voir, Léo Ferré. Léo Ferré arrive tout de suite et il chante Les Anarchistes. Donc pour culot monstre.
Bien sûr, bien sûr.
Extraordinaire.
Et la liberté du libertaire.
Oui, c'est ça.
Quand même, hein.
Et donc, alors moi, bien sûr, j'applaudissais des deux mains, je trouvais ça extraordinaire. C'était là aussi, parce que j'admirais à la fois. Alors, j'étais peut-être plus libertaire que communiste, j'étais pas du tout au Parti communiste. Et puis, puis à la fois, je me dis, mais quelle audace, ce type qui arrive tout de suite derrière le discours de marché pour chanter.
Oui, il
ça.
Faut le faire quand même.
Quel culot.
Bien sûr, ouais, bien sûr.
Quel culot. Ouais. Donc, ça fait partie des souvenirs que j'ai de.
Bah, on
j'ai peut-être anticiper sur une question.
Ben non, justement, on peut peut-être en venir au concert, justement, parce que tu l'as vu une paire de fois, et là, tu viens de m'énoncer quelque chose qui doit être un souvenir merveilleux pour toi. Mmh. C'est la chanson du Mal-aimé, oui.
Alors ça, c'est la première fois que je l'ai vu. Alors, c'est à l'Opéra Comique.
Oui.
Il n'y a pas de trace, je crois, sonore.
Non, donc, malheureusement. Ça,
malheureusement. Bah, oui. C'était en 73 ou 14, donc j'avais 16-17 ans. Et il faisait la chanson du Mal-aimé, et après, il y a Et basta.
Oh. Ça, c'est la première fois que tu le vois.
Ouais. Et c'est entre arrivé. Deux, je crois qu'il a fait La vie d'artiste et peut-être une autre chanson au piano, mais je sais pas. Il faudra retrouver dans les archives exactement ce qu'il a fait. Et là, c'est quand même, c'est pareil. C'est, et basta, quel filou. On fait un disque Bartlett, après, avec le temps, et donc, où il parle pendant.
Non, mais déjà en disque, c'est quelque chose, mais alors sur scène, ça doit être terrible, quoi.
Et le disque qui sortait, ça, je m'en souviens très bien, parce qu'il vendait à la sortie le disque L'Espoir, qui n'était pas encore sorti dans les magasins.
D'accord,
il en avait ça comme ça. Donc là, il y a Bartlett derrière, qui avait le sens du.
Ouais, bien sûr.
Du commerce. Et moi, bien sûr, moi, j'ai pris le disque. Donc, voilà. Mon premier souvenir, j'étais allé tout seul voir Ferré, et donc la chanson du Mal-aimé qui, sur scène, fallait le faire quand même sur scène, chanter ça, et je crois qu'il le disait par cœur, hein, il n'a pas de texte, pas de prompteur.
Ouais, tu crois?
Je ne vais pas dire de bêtises, hein, s'il y a quelqu'un plus qualifié ou qui était là qui peut dire,
ouais,
mais j'aurais vu que ce. Enfin, je sais, il me semble pas. Hein. Et donc, de toute façon, même avec le texte sous les yeux, il faut quand même le.
Oui.
Faut quand même le balancer. Et donc voilà, Opéra Comique. Et puis, je l'ai vu dans différents. Alors, comme. À chaque fois qu'il passait quelque part. Étant à Paris, dans la région parisienne, c'est un peu facile. Il passait dans les banlieues, dans les salles, à l'Olympia, etc.
T'y allais aussi, ouais.
Donc, oui, j'y allais, ouais. Effectivement, j'y allais. Alors, parfois avec des copains, parfois avec ma copine de l'époque. Et donc, je l'ai vu, je pense. J'ai vu à Bourges, au festival au printemps de Bourges. J'ai dû le voir, entre 10 et 15, au moins une petite quinzaine de fois. Alors, s'il faut rappeler un souvenir particulier
oui,
où je l'ai
plaisir.
Vu après. Après le, parce que malheureusement j'ai pas interviewé, je disais j'ai fait de la radio, mais quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était au début des années 90, où il tournait plus beaucoup. On sait qu'il devait faire le Grand Rex en 92,
ouais, absolument,
ou 93, et il était malade. Et alors un souvenir que j'ai, que je peux évoquer ici, si ça vous intéresse, c'était l'Olympia. Alors c'était 84, donc ça va faire 40 ans. Il passe à l'Olympia, mais alors là, pareil, à l'époque, c'était pendant 15 jours, hein, c'était pas un soir, hein, pendant 15 jours, il passe à l'Olympia, et je décide de prendre des places pour ma maman qui voulait le voir, et j'avais un ami avec sa femme, sa compagne, qui veulent le voir aussi, donc je me débrouille, je dis, d'accord, je vais prendre 4 places. Et je vais à l'Olympia, alors à l'époque pas Internet, hein, pas, on pouvait peut-être aller à la FNAC, mais bon, moi je voulais aller sur place. À l'Olympia, à l'époque, il y avait la queue devant les caisses pour prendre les places. Quoi. Je vais à l'Olympia le jour du premier jour de ce récital. Je sais plus, c'était un mardi par exemple, et le premier jour, et j'avais pris des places, je voulais prendre des places pour la semaine suivante. 4 places. Et dans la queue, j'entends les gens qui disent, ce soir, il y a de la place, c'est la première. Ah non, c'est complet. Ah bon, ce soir, il y a des places, c'est la première. Ah non, c'est complet. Bon, et puis, le gars, il dit à mon oh, il y en a un, mais c'est un strapontin. Bon, d'accord. Bon, j'arrive, devant la caisse, je dis, je vais prendre 4 places pour aller au Ferré pour telle date. Bon, d'accord, ça marche. Je fais mon petit chèque. Et puis, je lui dis, ce soir, là, c'est la première. Vous avez dit qu'il n'y a pas de place. Oui, si, il y en a une au troisième rang, un strapontin, c'est tout. Je lui dis, je le prends. Je lui dis, je le prends. Il me dit, tant pis, je veux ce soir, c'est la première, je veux être là le soir de la première. Ce qui fait que je viens le voir le soir de la première, tout seul, je vais voir le récital de Léo Ferré, en ayant mes places pour la semaine suivante. Et après le récital, je vais dans les loges.
Ah.
Je vais dans les loges. Alors le récital, 3 heures, tu sais ce que c'était que Léo Ferré sur scène, hein, en 3 heures, bon... J'étais sur mon petit nuage.
Ouais.
Et je vais voir dans les loges.
Et tu décides quand même d'y aller, quoi.
Je décide d'y aller.
C'est pas la première fois que tu le voyais en concert.
Le fait que je sois tout seul aussi, je me dis, je verrais bien. S'il y a du monde, je m'en irais. J'y allais comme ça guetter, puis sinon je m'en vais. Bon. Et il était là, devant la loge, il avait changé de chemise, il recevait quand même, il faisait le métier, il faisait quand même le... C'est pas le genre à partir, hein. Il y a des gens, on sait, mon temps faisait que pendant les applaudissements de la dernière, il partait en voiture pour pas...
Ah oui.
Et non, lui, il était là, il accueillait les gens, il faisait son métier.
Il faisait le métier, tu disais, ouais.
Je suis une idole, hein. Regarde-moi bien, je suis une idole, j'ai écrémé ma gueule sur un fond de soleil, etc. Bon, et ben là, pareil, il était... Et puis... Je vais le voir, alors c'est pareil, j'aurais aimé prendre des photos, mais à l'époque on prenait pas trop de photos avec les portables, j'aurais aimé enregistrer. On a échangé quelques mots, et puis je vais essayer de faire court, mais je sortais d'une histoire d'amour un peu compliquée, j'étais un peu perturbé, puis je lui dis, oh, il y a cette chanson-là, là. Ça m'a touché, parce que, ah ouais, oh, il m'a embrassé, il m'a dit, je comprends. Il m'a dit, alors j'avais le programme, il avait pris le programme, il ouvre le programme, il y avait le programme à l'époque, le programme des spectacles. Et puis il y a des extraits de chansons avec des photos. Il ouvre au hasard La Jalousie, il y avait une chanson qui s'appelait La Jalousie. Il dit, tiens, ça c'est pour toi. Et il écrit, il fait un truc, mon ami Yvan, bien fraternellement, il souligne le bien, et il me donne le truc, tout, m'embrasse, et je repars, tout. C'était le soir de la première, je me suis dit, j'ai bien fait de venir. Je raconte ça à ma mère et à mes amis, ou avec qui j'y retourne donc, la semaine suivante. Et on voit le spectacle magnifique, 3 heures et tout, pareil. Bon, très très bien. Et après on se voit, puis ma mère me dit, on va le voir là, dans la loge. Oh, je lui dis, non, attends, on va pas. Il y a du monde, il y avait un monde fou et tout. Je lui dis, on va... Bah, et si, il va te reconnaître, je lui dis, mais non, des gars comme moi, ils doivent en voir 10 par soir, et puis, tu sais, bon, je me suis dit, la honte, ouais, il va pas, si, on y va. Bon, alors, on y va. Alors, pareil, on fait la queue, puis, alors, devant nous, une dame qui sort son cahier de dédicace, monsieur, là, vous pouvez signer là, entre Dalida et Frédéric François, et lui, bien sûr, madame.
Wow.
Ah oui, il y a ça, quand même.
Ah, professionnel, quand même, hein, ah, pas oui. Mes gueules.
Et notre tour arrive, et il me voit, il me dit, comment tu vas, toi? Et il m'embrasse.
Ah, il te reconnaît immédiatement, bien sûr.
Alors là, moi, j'étais scié. Je lui dis, ça va bien. Et je lui dis, je suis avec ma mère. Il regarde ma mère et dit, ton fils, il est parfait. Donc là, je me souviens plus trop de la suite, mais
non,
j'en parle avec émotion, parce que avec ma mère, par la suite, je me rappelle, quand elle faisait un reproche, je lui disais, oui, mais tu sais, Léo Ferré, il t'a dit un jour que j'étais parfait. Hein. Elle dit, ah oui, c'est vrai. À chaque fois, on rigolait là-dessus. Elle me dit, oui, c'est vrai, il a dit ça. Donc
c'était,
voilà.
C'était une carte...
une carte. Ça valait toutes les légions d'honneur.
Ouais, voilà,
et
ouais.
Donc, je trouvais ça. Et après, on a changé quelques mots. Pour dire aussi que c'était, parce qu'on entend souvent dire que... C'était un ours qui l'envoyait chier les gens. Alors peut-être avec certains journalistes, parfois, il était un peu bourru.
Mmh, oui.
Mais là, moi, je l'ai vu, je peux témoigner. Et plusieurs fois, après le spectacle, il est là, il parle aux gens et il répond. Et... Alors s'il y a des gens qui viennent l'agresser,
oh bah, on sait que...
Bon, moi, c'était pas mon cas. Et donc, voilà le souvenir, un des souvenirs que j'ai de ma rencontre avec Léo Ferré dans un spectacle.
Assez mémorable, donc,
c'était
évidemment.
C'était pas mal, ouais, à l'Olympia. Ouais. Je crois que son fils était là, d'ailleurs, Mathieu, qui était jeune à l'époque.
Oh, oui.
Marie-Christine était quelque part dans la loge, oui. Mais voilà, dans les images un peu floues dans mon souvenir, mais les paroles qu'il a dites, par contre, je m'en souviens.
chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le bide. C'est un sujet tabou pour poète maudit.
Je la chante et dès lors, miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle, si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mort, la mienne n'aura pas comme dans le Larousse un squelette, un linceul dans la main.